Et en fait, on est en train de parler depuis quelques semaines de la maturité et la stabilité dans un monde qui est bousculé. Je pense qu'on est tous d'accord que nous vivons dans un monde qui est troublé. Il y a des choses qui se passent à tous les jours autour de nous, dans notre ville, dans notre province, dans le monde entier. Des choses qui brassent. Des fois, dans vos vies personnelles, il y a des choses qui brassent. Et c'est comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu, on peut arriver à une place où notre vie devient inébranlable. On veut être tellement enraciné dans l'amour de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, que peu importe ce qui arrive autour de nous, qu'on reste stable. Amen. Est-ce que ça, c'est votre désir? Et je crois que, et je sais que si nous mettons les principes de la parole de Dieu en pratique, que c'est ça qui va arriver. Donc, j'aimerais juste encore souligner notre verset clé que nous avons utilisé pendant quelques semaines. C'est en Jérémie, le 17e chapitre, le 5e verset, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. » Tout le monde dit un misérable. On ne veut pas être un misérable. Et le mot misérable, en réalité, des fois est traduit « buisson ». Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'image d'un petit buisson tout desséché qui est au milieu du désert. En fait, si on recule juste une minute, ouais, c'est comme ça, mais on recule une minute pour le verset. Et regarde bien, il est comme un misérable dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc, remarque bien, soulignez cette phrase. Il ne voit pas arriver le bonheur. Et savez-vous que il y a des gens qui vont jamais voir arriver le bonheur dans leur vie? Ils vont rester sur la terre pendant 75, 80, 90 ans. Et il y en a qui vont jamais voir le bonheur arriver chez eux. Et on voit la raison. C'est parce que souvent, ce sont des gens qui mettent leur confiance dans la chair, qui s'appuient dans la chair. Et ils sont comme ces buissons tout desséché dans le désert. Comme on voit l'image ici, ça c'est le même genre de buisson qu'on voit dans les westerns, n'est-ce pas? Et le vent arrive et puis c'est poussé à droite, c'est poussé à gauche, c'est emporté par le vent. Et ça c'est vraiment l'image d'un chrétien qui n'est pas planté près des eaux vives. C'est un chrétien qui n'est pas enraciné dans les choses de Dieu, c'est un chrétien qui est facilement emporté par les tentations, par les difficultés et par les choses qui vont pas dans son entourage. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas être. Mais si on continue, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté. Tout le monde dit comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté près des eaux. Pas juste un arbre planté, parce que si on plante un arbre dans le désert, il n'y a pas une source d'eau quelque part, l'arbre va quand même mourir. Mais là, on voit que les gens qui mettent leur confiance dans l'Éternel sont comme les arbres plantés près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Ils n'aperçoivent pas la chaleur quand elle vient. On a déjà parlé de ça. On a fait tout un message sur comment rester calme sous la pression. Okay? Quand elle vient, et son feuillage reste vert, on a fait un autre message là-dessus, que peu importe qu'est-ce qui arrive dans la vie, si on est planté près des eaux, on peut toujours garder les vraies couleurs d'un vrai chrétien. C'est dans notre nature d'être rempli d'amour. Amen. On a parlé tout de cela il y a quelques semaines aussi, et son feuillage reste vert, et dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. La semaine passée, nous avons discuter de cela. On a vu dans la parole que la crainte ouvre la porte aux troubles dans notre vie et que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Et on peut vivre d'une manière qui est complètement libérée de toute peur et toute crainte. Et on va terminer aujourd'hui en voyant ceci. Et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Et voilà, on voit ici qu'un chrétien qui est vraiment enraciné, qui est planté comme un arbre, ça c'est un chrétien qui va continuellement et sans cesse porter du fruit, être fructueux dans sa vie. Et je crois que c'est une chose qui vous intéresse aussi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être fructueux pour le Seigneur? Et puis, il y a un autre verset dans la psaume 1, 3. J'ai mis ça dans vos notes. C'est presque un verset parallèle qui dit, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » J'aimerais que vous disiez « son fruit » et « sa saison ». C'est quelque chose d'intéressant ici. Parce que chaque chrétien et chaque personne qui croit en Dieu est comparé ici à un arbre qui peut être planté près des courants d'eau et chaque chrétien a son fruit à porter et chaque chrétien a sa saison dans laquelle il va le porter aussi. Et ça, c'est une chose que je veux vraiment, vraiment souligner aujourd'hui, c'est que nous sommes tous appelés à porter un fruit spécifique lors d'une saison spécifique. Sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Même si vos parents ont dit, oh, c'était par hasard, c'était un accident. Non, vous n'êtes pas un accident, vous êtes ici selon le dessein et le plan de Dieu. Tout le monde, regarde quelqu'un et dit, vous n'êtes pas ici par hasard. c'est pour une raison. Dieu a un plan. En fait, qu'est-ce qu'on voit en Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui n'est pas dans vos notes, mais vous pouvez écrire la référence. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, et on était créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes son ouvrage. On va le dire, « Je suis son ouvrage. » En fait, on pourrait dire nous sommes le chef d'œuvre de Dieu. Dieu, quand il nous a créés, il avait un plan, il avait un dessein, il avait une idée dans sa pensée, dans son cœur. Il y avait quelque chose de particulier, une chose spécifique qu'il voulait accomplir avec votre vie ici sur la terre. Personne n'est ici juste pour utiliser l'oxygène. Hein? Tout le monde est ici pour accomplir le dessein de Dieu. Mais il faut y croire. Et quand on parle de cela, quand on parle d'un chrétien qui va porter du fruit, dans le fond, on parle d'un chrétien qui va accomplir la volonté de Dieu et qui va produire les résultats que Dieu veut qu'il produise dans sa vie ici sur la terre. Amen. Donc, il porte toujours son fruit dans sa saison. Son fruit. Donc, chaque chrétien est appelé à porter un fruit spécifique dans une saison spécifique. Mais vous dites, mais moi, je ne sais pas c'est quoi le fruit spécifique que je suis censé apporter. Bon, laisse-moi reculer un peu. Oui, comme je dis, tout le monde a un fruit spécifique à porter, mais aussi un fruit général que tout le monde, peu importe que vous soyez homme, femme, jeune ou vieux, tout le monde qui est dans le Seigneur doit porter. Il y a le fruit de l'esprit, par exemple, qui est le fruit de l'amour. On doit tous porter ce fruit d'être plein de bonté, plein de patience et de ne pas soupçonner le mal. Et de la liste que je vous ai donnée il y a quelques semaines, en Corinthiens 13, 4 à 8, on est tous appelés à porter le fruit de l'esprit dans notre vie. Quand les gens nous voient, ils devraient voir Jésus. Amen? Donc ça, c'est le fruit général qu'on est censé apporter. Aussi, on pourrait dire que chaque arbre, par exemple, va se reproduire selon son espèce, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on a un oranger et on prend l'orange et à l'intérieur de l'orange, il y a une semence. Si on plante la semence, c'est quoi qui va pousser? Les oranges, pas des pommes, pas des bananes, pas les olives, mais un orange. Donc, c'est comme ça. Si les chevaux se multiplient, qu'est-ce qu'on va avoir? Les chiens? Non. On va avoir les chevaux, n'est-ce pas? Parce que chaque animal, chaque plante, chaque chose que Dieu a créée contient une semence et il a la capacité de se multiplier et produire selon son espèce. Et si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes chrétien et vous allez reproduire dans votre vie du fruit, qu'est-ce que vous êtes censé reproduire? Si vous êtes chrétien, vous allez produire des chrétiens. C'est-à-dire que oui, ça c'est une chose générale. Chaque enfant de Dieu doit manifester le fruit de l'esprit. Et il y a un autre fruit, c'est le fruit des âmes qui vont être sauvées. Il y a des personnes dans votre entourage qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et ils vont, eux autres, croire en Jésus-Christ. Ils vont devenir chrétiens. Ils vont donner leur vie au Seigneur. Et ça, c'est un fruit que chaque enfant de Dieu est censé apporter aussi d'une manière générale. Amen. Mais quand on parle spécifiquement, une chose que je sais, si vous vous occupez de porter du fruit général, qui est de marcher dans l'amour et manifester le fruit de l'esprit, le Seigneur va vous diriger au fur et à mesure, une journée à la fois, et il va vous mettre à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, et vous allez commencer à produire d'autres fruits. Peut-être il y en a qui sont censés, ils sont doués avec un talent pour la musique, pour composer les chants, pour jouer le piano, pour chanter. Il y en a d'autres qui sont les écrivains. Il y a d'autres qui sont appelés à être des bonnes mamans ou des bons pères ou les bons travailleurs ou les hommes d'affaires qui vont pouvoir fonder les commerces, qui vont prospérer pour pouvoir bénir les autres. Amen. Peu importe, il y a quelque chose de spécifique que vous pouvez faire qui va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, tout le monde a un fruit spécifique à porter, mais il porte son fruit dans sa saison. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir qu'il y a une saison pour toute chose. Il y a une saison, premièrement, pour votre vie. Ce n'est pas par hasard que vous êtes en vie en 2009 aujourd'hui. Vous n'avez pas vécu en 1809. Mais vous vivez aujourd'hui en 2009. Pourquoi? Parce que ça, c'est votre saison. On pourrait dire que c'est notre génération. Il y a quelque chose que vous êtes censé à faire ici, aujourd'hui, dans ce temps, dans ce moment. Et si vous ne le faites pas, il y a peut-être personne d'autre qui peut le faire de la même manière que vous pouvez le faire. Oui, des fois, Dieu peut trouver des remplaçants, mais c'est moins efficace que si vous aurez fait cela. Vous me suivez aujourd'hui? Donc, il faut comprendre, quand on parle des saisons, il y a beaucoup de choses. Moi, je pourrais prendre toute une série de juste parler des saisons. Mais il faut être capable de reconnaître la saison dans laquelle vous vous trouvez dans votre vie. Premièrement, reconnaissez que vous vivez dans une génération spécifique et que votre don, votre appel est nécessaire pour voir la réalisation de l'œuvre de Dieu dans cette génération. Premièrement. Mais sachez qu'il y a même des saisons de votre vie et que vous n'allez pas voir l'accomplissement de tout ce que Dieu a mis dans votre cœur tout de suite. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour arroser, il y a une saison pour récolter, n'est-ce pas? Et si vous êtes capable, au lieu de... qu'est-ce que ça donnerait, hein, en plein hiver, au Québec, quand il fait moins 30, il y a 2 mètres de neige par terre et on veut même pas en parler, hein? Ça s'en vient, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça donnerait, là, d'aller essayer de semer en champ? Ce n'est pas le temps de semer le champ. Ou ce n'est pas le temps non plus de récolter la moisson, parce que la moisson n'est pas là. Il y a des saisons, et dans votre vie, c'est comme ça aussi. Il y a des saisons, des fois, le Seigneur va mettre des choses dans votre cœur. Moi, je m'en souviens tellement, on a l'exemple de femme de Pasteur Kenneth Hagin. En Oklahoma, elle disait que depuis des années, elle avait dans son cœur un appel pour enseigner la parole de Dieu et de faire du ministère aux femmes. Mais pendant des dizaines d'années, elle était mère, elle allait à diriger l'école biblique, mais en même temps, elle avait des responsabilités à la maison avec sa famille. Donc, elle n'avait pas, c'était pas la saison d'exercer un ministère de la parole. Mais un jour, et il y avait des moments où c'était un peu frustrant. C'est comme, Seigneur, j'ai toutes ces choses dans mon cœur. Mais elle a dit, OK, finalement, le Seigneur lui a fait comprendre que non, c'est une saison maintenant de préparation. Tu t'occupes de ta famille, mais aussi à se préparer dans la prière, à passer des heures et des heures dans la prière à tous les jours. Et puis finalement, quand les enfants étaient grands, mariés, le Seigneur lui a donné le OK pour commencer à enseigner et faire du ministère pour les femmes, etc. Et là, c'est merveilleux ce qui se passe, parce que c'est la saison pour ça maintenant. Donc, des fois, il y a des chrétiens qui sont frustrés parce qu'ils voient, « Ah, mais je sais que je devrais faire ça, mais ça n'arrive pas aujourd'hui. » Peut-être c'est toujours la saison de semer ou d'arroser ou de préparation, mais sachez que la saison de la récolte s'en vient. Il faut reconnaître, il faut respecter les différentes saisons de la vie. Mais sachez que vous êtes ici pour une raison. Il y a quelques versets que j'ai mis dans vos notes que j'aime beaucoup. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, en Ecclésiaste 3:1. Jésus a dit quelque chose dans Jean 7, verset 6. Jésus le dit, mon temps, soulignez la phrase, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps, vous pouvez souligner votre temps, est toujours prêt. Jésus avait ce sens, il comprenait que je suis ici, sur la terre, pour une raison, et il y a un temps qui s'en vient où j'ai une œuvre à accomplir. C'était quoi l'œuvre? C'était de donner sa vie à la croix. Il y avait un moment où il allait pas avoir sa vie ôtée, mais il allait donner sa vie. Et savez-vous qu'il y a des personnes qui cherchaient à le faire mourir à plusieurs reprises, mais il s'est toujours échappé, il a toujours échappé de, et il a toujours réussi à rester en vie jusqu'au jour qu'il savait que c'était mon temps maintenant de faire la chose pour laquelle je suis venu. C'est de donner ma vie comme un rançon pour tous. Amen. Donc, on regarde ceci, Actes chapitre 13, verset 36. Ce verset est tellement riche, ça touche mon cœur à chaque fois que je lis cela. Or, David, après avoir en son temps, soulignez la phrase, en son temps, servi au quoi? Au dessein de Dieu. Servi au dessein de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il est mort, il a été réuni à ses pères. Et il a vu la corruption, c'est-à-dire que son corps a vu la corruption. Savez-vous quoi? Je pense qu'on a besoin de réaliser. Dieu a dit, en fait, que, et même dans ce chapitre, un peu plus haut dans ce chapitre de Actes, la Bible dit que Dieu a trouvé David, un homme selon, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Qui fera toute ma volonté, c'est-à-dire qui est prêt à porter son fruit. Il est prêt à accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a créé. Vous me suivez? Tout le monde dit, j'ai un fruit à porter. Hein? Mon fruit dans ma saison. Et David, après avoir servi dans sa génération, dans sa saison, le dessein de Dieu. Après ça, il est mort. Et moi, je me suis dit, je refuse de mourir avant d'avoir servi le dessein de Dieu dans ma saison. Amen. J'ai quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Vous avez une œuvre à accomplir sur la terre. Vous êtes ici. Et voulez-vous avoir un sentiment d'être comblé, heureux, de voir arriver le bonheur? Travaillez dans le plan de Dieu. Porter le fruit pour lequel vous êtes créé et servir au dessein de Dieu. Le problème, c'est que la plupart des gens sur la planète Terre, ils servent à leur propre dessein. N'est-ce pas? Ils ont leur propre projet, leur propre rêve, leur propre chose qu'ils veulent faire et accomplir dans la vie. Et des fois, c'est pas méchant, mais c'est pas le plan de Dieu. Et qu'est-ce que ça donne de servir à vos desseins et puis de mourir? Pas grand-chose. Mais si vous servez au dessein de Dieu pendant votre saison, là, vous allez pouvoir arriver devant le trône de Dieu et entendre le Seigneur Jésus dire, quoi? Bien fait, bon et fidèle serviteur. Et ça, c'est mon désir. Et vous? Il porte son fruit en sa saison. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Esther, ça me fait toujours penser à Esther. Vous vous rappelez l'histoire d'Esther? Il y avait un complot de tuer tous les Juifs. En fait, le génocide, c'était sur l'agenda de certaines personnes à l'époque de l'histoire d'Esther. Mais Esther, qui était une Juive, se trouvait prête à devenir, et elle est devenue même la reine. Et à l'époque, la reine n'avait pas le droit de se présenter devant le roi, à moins que le roi l'invite à venir. Et si la reine osait se présenter devant le roi, sans invitation, elle était vraiment, vraiment dépendante de la miséricorde du roi, parce que le roi avait le choix de dire, parce qu'on parle d'un roi païen, on parle pas de roi d'Israël, elle était dans la cour d'un roi païens qui ne connaissaient pas Dieu. Et là, on voit que si le roi était de bonne humeur et étendait le sceptre, ok, c'est correct, je suis content que tu es venu, pas de problème. Mais s'il n'était pas d'accord et la reine arrive, ça peut être la fin, ça peut être exécution pour la reine parce que elle n'a pas obéi le protocole du culture. Et là, Esther a une occasion. Elle se trouve ici à la cour du roi. Elle a une occasion de révéler le complot qui a été dessiné pour tuer tous les Juifs. Mais elle savait qu'en faisant ça, je vais prendre le risque de me faire tuer. Mais elle a réalisé, bon, j'ai une destinée à accomplir ici. Je suis dans une position où je peux faire une influence sur le roi et je peux sauver mon peuple. Donc elle a pris, ça c'est l'amour aussi, elle a pris la chance de subir le jugement du roi et de mourir, mais à place de, au lieu de ne pas le faire à cause de la crainte et la peur, elle s'est approchée du roi et heureusement, il a étendu le sceptre et le peuple juif ont été sauvés. Mais regarde bien en Esther 14, qu'est-ce que son oncle a dit à elle. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps, souligner le mot un temps, comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous me suivez? Dans ce moment, waouh, ça c'est pourquoi je suis ici sur la terre. Ça c'est pourquoi je suis né. Ma vie va servir au dessein de Dieu parce que je suis dans une position de sauver le peuple juif et d'éviter un génocide. N'est-ce pas quelque chose? Pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre? C'est quoi le fruit que vous êtes appelé à porter? Savez-vous que vous êtes dans une saison particulière et personne d'autre peut prendre votre place? Vous avez quelque chose à faire. Vous dites, mais moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Je ne suis pas Moïse, je ne suis pas David, je ne suis pas Esther. Oui, mais vous êtes quelqu'un dans le royaume de Dieu. Et même Jésus a dit que le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Amen? Tout le monde a quelque chose à faire. On parle toujours de Moïse, et Moïse a fait des exploits, la mer rouge séparée, et tous les prodiges qu'il a accomplis par la puissance de Dieu. Mais combien de personnes pensent aux parents de Moïse? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Ils ont fait un bon panier qui ne coulait pas. Quand Dieu a mis la crainte de Dieu qui était dans leur cœur, les a poussés à sauver le bébé Moïse. Ils ont fait un bon panier, ils ont fait ça de tout leur cœur, avec excellence. Le panier n'a pas coulé, le bébé n'était pas noyé. Et puis, heureusement, si les parents de Moïse n'auraient pas fait leur job, Moïse n'aurait jamais survécu. Vous me suivez? Amen. Donc, tout le monde dit, j'ai un fruit à porter dans ma saison. Alléluia. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? On va lire un texte dans Jean chapitre 15. Et dans ce texte, on va trouver juste 7 points importants, des choses terre à terre qu'on peut faire pour arriver à porter du fruit, être fructueux dans notre vie. C'est Jean chapitre 15, verset 1, Jésus qui parle, qui dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du quoi? Fruit, il l'émonde. Afin qu'il porte quoi? Encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quoi? Beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. On a parlé d'un buisson misérable dans le désert. On ne veut pas être comme ça, non? Et il sèche, puis on ramasse les serments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment porter du fruit, notre fruit dans notre saison? Cette chose qu'on voit dans ce verset, dans ce passage. Premièrement, prenez une décision de qualité de devenir fructueuse. Savez-vous que si vous êtes fructueux ou non, ça dépend un peu de votre choix? C'est vrai? Pourquoi? Parce que je peux choisir de laisser Jésus, qui est le vrai cep, je peux choisir de laisser sa vie couler à moi pour produire du fruit. Et il y a un équilibre ici. Quand je dis de prendre une décision d'être fructueux, il y a une différence, et la Bible est très claire là-dessus. Par exemple, la Bible parle du fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Il y a une différence entre un fruit et une œuvre. Savez-vous qu'il y a une différence entre un fruit et une œuvre? C'est quoi la différence? La différence est organique. La différence, c'est qu'un fruit prend la vie. Tandis qu'une œuvre, c'est une chose qu'on peut faire de nos mains. On peut faire une œuvre avec le bois, avec le tissu, avec le métal. On peut œuvrer, on peut travailler avec des matériels qui n'ont pas de vie dedans. Tandis qu'un fruit exige la présence de la vie. Et la Bible dit que par les œuvres de la chair, personne ne sera justifié. On peut travailler pour être bon devant Dieu, on peut travailler pour être des bonnes personnes, pour être gentil avec tout le monde, et on peut faire les efforts humains. Et ça vaut rien aux yeux de Dieu. Mais si on laisse la vie de Dieu couler à nous, et on laisse le fruit de sa présence produire les résultats, ça c'est une autre histoire. Mais prendre une décision que, Seigneur, je vais arrêter d'essayer de produire les résultats de ma propre force, mais je vais laisser ta puissance travailler à moi. Je prends une décision. C'est plus moi qui est le chef de ma vie, c'est toi qui es le chef de ma vie. Et là, savez-vous, c'est moins stressant comme ça. Avez-vous déjà vu une pommier, par exemple, qui est toute inquiète et stressée? Oh, il faut que je produise des pommes. Il faut que je... Oh, une pomme aujourd'hui. Ah, oh, une pomme. Oh, là, il va falloir que j'en produise plus, sinon ils vont venir, ils vont me couper. Oh, non. Une pomme, il est juste, un pommier, il est juste là, dans le soleil. N'est-ce pas? Il laisse la vie qui se trouve à l'intérieur produire le fruit. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. On doit laisser la vie de Dieu. Oui, on travaille, mais on travaille dans l'esprit et par l'esprit. Prenez une décision. Hein? C'est comme Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderiez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est quoi la deuxième chose? Permettez au Seigneur de vous inonder. Savez-vous que si on a une plante rosier, par exemple, qu'il y a des parties qui produisent pas trop de roses, on est mieux des fois de couper. Moi, je suis pas expert, il faut demander à Rosélène, c'est elle l'experte pour les plantes et tout cela, mais n'est-ce pas vrai que ça peut aider une plante, Rosélène, si on peut l'émonder? C'est ça, ça produit d'autres fleurs. Et c'est ça que le Seigneur fait avec nous. Il voit que, waouh, je vois du fruit dans votre vie, mais je veux voir davantage. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous émonder. Émonder veut dire couper aussi. Il y a certaines choses qui va couper de notre vie. Il y a des choses qui prennent de l'énergie, qui sont pas nécessaires, qui sont pas utiles, pas forcément péchées, mais pas fructueux non plus. Hein? Vous savez qu'aux États-Unis, je sais que c'est la même chose au Canada, mais j'ai vu les statistiques que les Américains vont regarder en moyenne de 6 heures de télévision par jour. 6 heures par jour, il n'y a que 24 heures dans une journée et on dort entre 5 et 8 heures, je ne sais pas, dépendant qui vous êtes. J'aimerais dire qu'on dort 8 heures dans une nuit, mais ce n'est pas souvent. Mais regarde bien, on dort entre 5 et 8 heures et si on regarde à la télévision 6 heures et si on travaille 40 heures par semaine ou 50 heures par semaine, wow, ça c'est pas mal d'énergie, n'est-ce pas? Est-ce que je suis contre la télévision? Non, mais des fois oui, mais ça dépend c'est quoi. Mais il y a des choses dans notre vie que le Seigneur veut des fois émonder pour que nous soyons plus fructueux. Amen? Alléluia. Donc, pour qu'on soit équilibré en lui. Il y a un verset qui dit, Hébreux 12, 11, « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pourquoi? Pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. » Wow, gloire à Dieu. Donc, laissez le Seigneur vous émonder. C'est-à-dire que, Seigneur, s'il y a des choses que j'ai besoin de couper, il y a des fois, c'est certaines pensées que j'ai qui ne sont pas bonnes. Je ne devrais pas penser de même. Je gaspille de l'énergie. Des fois, il veut couper l'inquiétude de votre vie. Je gaspille beaucoup trop d'énergie en s'inquiétant. Vous me suivez ce matin? Numéro 3, demeurez continuellement en Christ. Demeurez continuellement en Christ. Savez-vous, Jésus a dit, demeurez en moi. Il n'a pas dit, campez en moi. Il n'a pas dit, rendez-moi visite une fois par semaine le dimanche matin. Ou deux fois par semaine, dimanche et mercredi soir. Il n'a pas dit ça, il a dit, demeurez en moi. Restez en moi. Où est-ce que vous demeurez? Votre demeure, c'est la place où vous restez régulièrement. Et continuellement, n'est-ce pas? Moi, je peux aller rendre visite à quelqu'un ailleurs, mais je demeure à Drummondville. Je demeure sur la rue de la Topaz à Drummondville. Où est-ce que vous demeurez? Dans l'esprit. Est-ce que vous demeurez en Christ? Et Jésus a dit quelque chose, si on parle de cela, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous restez, vous demeurez dans l'amour de Dieu, vous allez demeurer en Jésus-Christ. Amen. Et une chose qui va de pair avec ça, numéro 4, soyez conscient de sa présence en vous. Si vous demeurez en Jésus, Jésus va demeurer en vous. Et n'est-ce pas bon de savoir que le Seigneur ne vient pas nous rendre visite, mais il reste. Et il déménage. Il arrive avec son camion de déménagement. Amen. Et si vous voulez que le Seigneur demeure en vous, même pas besoin de... Pas besoin d'attendre le 1er juillet, hein, le jour de déménagement. N'importe quel jour de l'année, vous pouvez dire, Seigneur, aujourd'hui, je t'invite à venir demeurer dans mon cœur. Et quand il arrive avec ses biens. Il arrive avec le Saint-Esprit. Il arrive avec sa présence, avec sa nature. Il arrive avec les bénédictions. La parole de Dieu dit que nous sommes bénis. Il nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il arrive avec tout son stock. Et il demeure en nous. Il reste en nous. Mais des fois, on n'est même pas conscient de sa présence. Il est là, et on ne lui parle pas. Ça ne serait pas trop poli, hein? D'avoir quelqu'un qui demeure chez vous et vous ne parlez jamais à lui. Il est toujours là à la table pour le déjeuner et vous arrivez et vous ne dites même pas bonjour, allô, je suis content de te voir ce matin ou quoi que ce soit. Mais Dieu habite en nous. Le Seigneur Jésus demeure en nous. C'est quand la dernière fois que vous avez dit, Seigneur, je t'aime, je suis tellement content que tu habites en moi. Demeurez en lui. Donc, on continue la cinquième chose ici. Sachez que vous ne pouvez rien faire sans Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, oh, c'est pas vrai, je peux faire plein de choses. On va dire, vous pouvez rien faire qui va compter pour l'éternité sans Jésus-Christ. Vous pouvez faire plein d'œuvres, mais vous pouvez pas porter du fruit sans lui. Encore, différence entre un fruit et une œuvre, n'est-ce pas? Donc, regardons bien. Car, par nos propres forces, nous sommes quoi? Incapable d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. C'est lui seul qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. Ça, c'est une bonne parole, n'est-ce pas? Et ça me donne beaucoup de courage. Parce que des fois, je ne me sens pas à la hauteur de ce que Dieu me demande de faire. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Des fois, je ne me sens pas à la hauteur de ce que Dieu me faire. Mais laisse-moi vous dire qu'il est là, il demeure à nous. Et si on reste branché à lui, on va continuer à produire du fruit. Amen. Il est le sept, nous sommes les serments. Il faut rester branché, il faut rester connecté. Moi, j'ai un laptop, je fais presque tout mon travail sur un laptop, et la beauté d'un laptop, c'est qu'on peut se promener avec, on peut travailler presque n'importe où. Et il y a une batterie là-dedans, donc j'ai un certain nombre d'heures où je peux travailler. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe souvent? Hein? Je peux être en train de travailler, ou des fois je m'éloigne un peu de mon ordinateur quand c'est à la maison, et tout d'un coup on entend bip, bip. Et tout le monde sait, « Hey, papa, la batterie sur l'ordinateur. » Ou ma femme va dire, « Hey, chérie, il faut brancher l'ordinateur, ça va s'épuiser. Hein? » Et on voit que, je ne sais pas pourquoi, mais si on ne reste pas branché, le courant ne continue pas à agir. Et des fois, on est comme ça avec le Seigneur. On vient à l'église et on est rechargé le dimanche matin. Mais si on ne reste pas branché tout au long de la semaine, tout d'un coup, on commence à bip, bip. Votre employeur dit quelque chose qui ne fait pas votre affaire, au lieu de manifester le fruit de l'esprit, c'est bip. C'est assez. J'ai assez dit. OK, on comprend tout. On ne veut pas avoir des bip, bip dans l'église. On veut avoir des chrétiens qui continuent à fonctionner à leur pleine capacité. Restez branchés, restez chargés. Amen. Alléluia. Donc, et puis, finalement, on voit ici, non, c'est pas finalement la sixième chose, laissez sa parole demeurer en vous dans toute sa richesse. Si on veut porter du fruit, on ne peut pas produire des résultats sans avoir la parole de Dieu, la parole qui est vivante et permanente dans notre cœur. Que la parole de Christ habite parmi vous, comment? Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Une chose que j'ai découvert de plus en plus même, c'est que je ne peux pas m'éloigner de cette parole. Parce que si je m'éloigne de la parole, je commence à bip-bip. Bip-bipé. Est-ce que ça, c'est infinitif? Mais c'est la parole qui est vivante. Elle est efficace. Elle a le pouvoir de nous changer, de nous transformer. Elle nous nourrit. C'est notre pain quotidien, n'est-ce pas? Moi, j'ai établi une petite règle dans ma vie. Quand je le respecte, ça va bien dans ma vie. Si jamais je ne néglige, je vois que non, ça ne va pas. Et ça, c'est que pour moi, c'est mon règle. Je n'ai pas dit que vous avez besoin de faire la même chose. Mais pour moi, c'est si je n'ai pas la parole, je n'ai pas de déjeuner. Pas de parole, pas de déjeuner. Des fois, j'ai un creux le matin. Mais je dis, bon, si mon estomac a faim, sûrement mon esprit a faim aussi. Donc, je dis, bon, non, je vais me discipliner pour lire. Et je n'ai pas dit que vous avez besoin de lire tout le Nouveau Testament avant de manger. Mais prendre quelques minutes, prendre un peu de temps, méditer quelques versets, mettez la parole de Dieu dans votre cœur pour que ça puisse nourrir votre esprit, que la parole demeure abondamment en vous. Et encore, ça c'est juste un truc que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste une idée. Et si vous n'avez pas essayé, et vous avez de la difficulté à être discipliné dans la parole, faites-le, ça pourrait vous aider. Mais laissez la parole de Dieu demeurer en vous dans toute sa richesse. Et finalement, faites tout pour la gloire de Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Et en Matthieu 5, 16, on voit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les œuvres de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, pas les œuvres de la chair. On veut laisser la lumière de Dieu luire devant les hommes. On veut être tellement rempli de Dieu, tellement branché avec Jésus, qu'à tous les jours de notre vie, on porte notre fruit dans notre saison. Tout le monde dit, je veux porter mon fruit dans ma saison. méditer ces choses. Je vous invite. Là, je vous donne le menu encore ce matin. C'est pas le fait d'écouter ce sermon, ce message ce matin qui va changer votre vie. C'est seulement la parole que vous allez prendre ce matin et mettre en pratique cet après-midi, ce soir et demain matin et toute la semaine. C'est seulement cette parole que vous mettez en pratique qui va vous aider. Amen. Le médecin vous donne un médicament, vous mettez ça dans l'armoire, quelque part, dans un placard, quelque part, et vous laissez ça dans la bouteille. Est-ce que ça va faire quelque chose dans votre vie? Est-ce que ça va vous aider à guérir? Jamais, parce que c'est pas activé. Vous sortez aujourd'hui avec une feuille, avec une Bible, pleine de promesses, pleine de vérités, et si vous appliquez ça dans votre vie, ça va rien changer, ça va pas guérir les choses qui sont brisées, ça va pas transformer votre vie. Mais si vous prenez une décision, oui Seigneur, je crois que tu es le cèpe, je suis le sarment, je veux rester branché, je veux porter du fruit dans ma saison, mais si vous faites ces 7 choses que je viens de vous donner, je suis convaincu, je suis garanti, c'est succès garanti à 100%. Amen. Satisfaction garantie à 100%. On va se lever debout. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Tania, s'il vous plaît? Elle va venir jouer. Mais j'aimerais qu'on termine aujourd'hui avec une prière. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Alléluia. Alléluia. Il ne cesse de porter du fruit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Son fruit en sa saison. C'est ça que nous désirons. Son fruit, sa saison.